La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral. On décortique l'actu jusqu'à 19h avec les grandes voix. Ce soir, autour de vous, l'éditorialiste Marie-Ève Malouin et Judith Vintraube du Figaro.
Et bien sûr, 39-21, si vous voulez interroger nos grandes voix, c'est possible, on vous attend, bien évidemment. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir.
On regarde les premiers pas du gouvernement Castex. Quelle journée pour Jean Castex, dites donc, 300 à l'heure. Hein. L'Assemblée, le Sénat, une première interview télé ce matin. Il est en ce moment à Bobigny. Judith Vintraube.
Oui,
c'est rythmé.
C'est l'illustration du gouvernement immédiatement à pied d'œuvre qui bouge, mais pour l'instant, c'est de la communication. Moi, sur le fond, ce qui m'a frappé dans cette journée, c'est l'abandon.
C'est important pour débuter la communication, c'est des messages aussi adressés.
Vous voulez qu'on reste sur la com.
Allez dans le fond.
Alors, sur le fond, oui. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'aussi bien ce matin chez Bourdin que cet après-midi au Sénat, Jean Castex a acté le report sine die de la réforme systémique des retraites.
Expliquez-nous, rentrez, oui.
C'est très simple, il dit, c'est acté, on a séparé le dossier en deux. D'abord, il y a ce qu'on appelle la réforme systémique, c'est-à-dire le système universel, qui était la grande réforme. Hein. Et ça, Jean Castex dit que c'est un travail de longue haleine. Mmh. Longue haleine en politique, quand on est à 18 mois d'une présidentielle, ça veut dire pour après la présidentielle. D'autant plus qu'il rajoute ce régime universel se discute bien sûr avec en toile de fond l'avenir des régimes spéciaux. Ouais. Question dont on aurait pu croire qu'elle avait été réglée, hein, puisqu'elle a donné lieu à pas mal de grèves et déjà de compromis et de gestes de la part du gouvernement. Donc d'une part, il y a ça qui est repoussé au calendrier grec, sous réserve d'une annonce surprise dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et puis il y a ce qu'Édouard Philippe avait exigé, c'est-à-dire la réforme paramétrique, l'équilibre financier du système. Or ça, en revanche, c'est pour tout de suite.
Marie-Ève Malouin. D'accord,
oui, mais oui, je suis assez d'accord, parce qu'il l'avait déjà laissé entendre lors d'une de ses premières interviews. Hein, il avait plus insisté sur les données budgétaires. Il y a 30 milliards qu'il faut trouver pour financer les retraites du fait du Covid. Puis, parce qu'avant, on débattait, certains disaient, c'est pas sûr, on n'est pas si pressé que ça pour revoir au niveau du financement des retraites. Là, c'est sûr qu'on y est. Et de fait, il aurait été bien téméraire de persister sur cette voie-là, puisque de toute façon, il va voir les organisations syndicales, le patronat, qui vont tous lui dire « c'est pas le moment, la réforme du système des retraites, c'est pas le moment ». Donc il commence à l'acter, il l'actera encore mieux une fois que tous les partenaires éventuels de cette réforme lui diront « c'est pas le sujet aujourd'hui ». Et je pense que l'opinion aussi n'a pas vraiment envie de repartir dans cette sorte de... cette véritable usine à gaz.
C'est pas le bon timing parce que la rentrée sera agitée, parce que les entreprises licencient, parce que ça va être compliqué pour les Français.
Sur le plan social, il y a plus urgent à faire. C'est s'occuper du chômage des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Et là, c'est vraiment un sujet très important, parce qu'on a des jeunes qui ont fait leurs études, qui sortent sur le marché du travail et qui vont se retrouver sans emploi. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Qu'est-ce qu'on leur dit de la société telle qu'elle est organisée pour eux ? Donc soit on attend encore un peu, soit on les laisse aller sur le marché du travail, être au chômage et faire augmenter les chiffres. Et puis cette sorte de désespérance et de manque de confiance dans l'action du politique. Ou alors, est-ce qu'on s'occupe de la réforme des retraites dont finalement personne n'a compris ce qu'il y avait dedans ? Tout ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y avait plus assez d'argent. Donc ça, éventuellement, on peut quand même en discuter.
Claude nous a appelé au 39-21. Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir à tous.
Vous nous appelez de la Côte d'Azur. On vous écoute,
voilà,
vous avez une question.
Faïence dans le Var. Merci de me donner l'occasion de m'adresser donc à vos invités, poser une question qui concerne M. Dupond-Moretti, notre nouveau ministre de la Justice, qui est connu pour être un personnage tenace et, je dirais, fort en gueule. En entendant hier sur votre antenne la réaction énervée de la présidente du syndicat de la magistrature, pour rappel, le syndicat du mur des cons, je me demande si le ministre ne devrait pas d'abord préciser, je dirais, en urgence absolue, sa position sur les liens fonctionnels, serait souhaitable, entre le parquet et la magistrature du siège. J'ajoute juste pour moi qu'une justice indépendante qui serait totalement aux mains d'une corporation de magistrats cooptée, ne rendant compte qu'à eux-mêmes et au fond devenue intouchable, à mon avis, présente quand même de vrais dangers, de vrais risques de dérive de notre système judiciaire. Donc ma question est simple. Le ministre doit-il clarifier rapidement sa position sur cette question épineuse, donc des rapports entre le parquet et les magistrats du siège ?
Merci pour votre question, Claude. Judith Vintraube vous répond, Judith.
C'est une excellente question, Claude, et malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais je pense comme vous qu'il serait urgent effectivement, que M. Dupond-Moretti la donne. On sait qu'il veut distendre le lien. Il avait notamment parlé de faire des apprentissages, des formations différentes en cassant l'École nationale de la magistrature pour faire deux filières, une filière parquet et une filière siège. Mais il n'a pas dit quel degré d'indépendance il voulait. Et cet après-midi, il a été interrogé aussi au Sénat là-dessus. Ouais. Il n'a pas donné beaucoup de précisions. Il les veut plus indépendants. Complètement indépendants, je ne crois pas. Mais j'avoue que j'attends, comme tout le monde, qu'il précise son projet de réforme.
Marie-Ève Malouine.
Oui, je crois que c'est une réforme qu'il ne va pas faire tout seul. Il va la faire avec des magistrats qui sont assez remontés contre sa nomination. Il va la faire aussi avec tout un gouvernement. Il a bien insisté, aujourd'hui, lors des questions au gouvernement, il fait partie d'une équipe, c'est plus son point de vue personnel, c'est le point de vue de tout le pack gouvernemental. Donc je pense qu'il a son idée, mais il va peut-être l'exposer moins rapidement que Claude l'espère, parce qu'il va falloir préparer tout le monde à cet éventuel changement et voir jusqu'où il pourrait aller, que ce soit du côté des magistrats, où ils sont plutôt contents d'avoir l'indépendance, mais du côté du politique, il va falloir quand même préparer les esprits, parce qu'il ne suffit pas de dire « voilà ce que je veux faire », il faut aussi avoir une majorité qui vote derrière.
Allez, alors, on continue.
J'ajouterais juste un point très important. Oui, c'est que Dupond-Moretti voulait aussi des juges responsables. Ouais. Il dit que c'est le seul corps de métier qui n'a aucune responsabilité devant personne. Et en cela, il a parfaitement raison. Mais pareil, on attend qu'il précise ses intentions.
Alors, on regarde de près les premiers pas de ces nouveaux ministres. On revient dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral, entouré des grandes voix Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraube du Figaro Magazine.
Et on regarde avec vous ce soir les premiers pas de ces ministres après cette journée marathon. On a regardé à l'instant les premiers pas d'Éric Dupond-Moretti. Gérald Darmanin, vous l'avez regardé beaucoup, Judith Vintraube, aujourd'hui.
Oui, parce que une des questions sur lesquelles on attendait le nouveau ministre de l'Intérieur, c'est la laïcité. Et plus spécifiquement, le rapport avec l'islam. Parce que Gérald Darmanin, du temps où il était à droite, s'était illustré en s'opposant à ce qu'il appelait la laïcité punitive. Notamment, il considérait que ce n'était pas la peine d'enquiquiner les mères voilées qui venaient chercher leurs enfants à l'école, qu'il y avait plus grave. Au moment des attentats...
Rappelons qu'il est maire de Tourcoing.
Oui, des attentats de 2015, Charlie Hebdo, il disait « Le problème, ce n'est pas l'islam, c'est la connerie. » Et par ailleurs, il souhaitait un concordat avec l'islam, avec toutes les religions, mais un concordat adapté avec la plus récente des religions en France, l'islam. Eh bien, sur tous ces sujets, qui quand même sont extrêmement intéressants pour les Français, il a été interrogé par Jacqueline Eustache-Brignaud, qui est une sénatrice du Val-d'Oise, ex-maire de Saint-Gratien, où elle s'est battue contre les islamistes et notamment les salafistes, et qui rend demain un rapport parlementaire sur l'islamisation, qui est rapport extrêmement inquiétant dont le Figaro a eu l'exclusivité, vous le découvrirez demain dans le Figaro. Et elle lui a demandé ça, qu'est-ce que vous entendez par laïcité punitive et qu'est-ce que ça veut dire un concordat avec l'islam? Réponse, vos propos sont caricaturaux, alors condamnation de l'islam politique, mais vos propos sont caricaturaux et vous verrez, je suis fière de l'assimilation française. C'est la traduction, on n'en sait pas plus.
Revirement
Non, je confie un peu plus que ça. Quand même, il dit que l'islam politique est un danger mortel pour la République. Il est contre le communautarisme, mais il a aussi pris l'exemple de son grand-père ou de son père qui priait, qui était musulman. Donc je crois qu'il est entre les deux. Il y a l'islam politique et il y a la religion islam pratiquée par des millions de Français. Et je crois qu'il veut s'inscrire dans cette logique-là, qui est moins une logique communautariste qui est assez récente en France. Avant, on était sur la politique d'insertion, c'est l'affaire du voile à Creil qui a amené la gauche à dire au nom d'une culture différente, chacun a droit à sa culture et donc on a toléré on a dit non, mais Jospin a mis très longtemps, après ça a mis plusieurs dizaines d'années pour arriver à cette loi sur le voile et donc la gauche a laissé venir le communautarisme en France qui n'est absolument pas la tradition française et donc moi j'ai trouvé c'est quand même assez intéressant qu'ils mettent en cause cette volonté de communautarisme et qu'on sorte de cette logique où on parle aux religions en fonction d'une et on crée une communauté et c'est l'inverse de l'insertion dans la République. Et donc pour moi, la distinction entre islam politique qui revendique une religion comme contestant le fonctionnement de l'État français, je trouve que là c'est très clair et c'est très important et très intéressant.
39-21, Antoine nous appelle du Var. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
On vous écoute, vous pouvez poser votre question.
Alors voilà, la question que je voulais poser, parce que j'ai quand même remarqué que dans les nouveaux arrivants au gouvernement, il y a quand même pas mal d'anciens proches collaborateurs de M. Sarkozy. Et la question que je me pose à l'approche des présidentielles qui vont être très très vite là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une amorce d'un rapprochement entre les marcheurs et les républicains qui pourraient se dire tiens, si ensemble on aurait peut-être un ticket gagnant pour la prochaine présidentielle. Voilà, je trouve que c'est peut-être pas le fruit du hasard qui est à des postes aussi importants que Matignon, l'intérieur, l'économie et d'autres postes régaliens, où en fait on retrouve l'arrière-garde, les hommes de l'ombre de M. Sarkozy. Voilà, c'est juste une question que je me pose.
Une bonne question, merci Antoine. Et c'est Judith Ventrop qui vous répond.
Je crois que c'est moins un rapprochement que la stratégie du coucou. Emmanuel Macron qui a fondé un parti qui n'en est pas un et qui en est de moins en moins un d'ailleurs. Constate que l'espace est à droite.
Pour gagner la présidentielle.
Exactement, et veut prendre cette place-là. Donc, peut-être avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy, encore que je pense que l'ancien président est très content d'être consulté, mis en valeur et de voir des proches.
On entend et celui-là qui sont pas forcément
qui sont pas forcément des proches politiques d'ailleurs, parce que Éric Dupont-Aignan, Éric Dupond-Moretti dont on parlait, c'est plus un ami, une connaissance amicale qu'un proche politique. Éric Dupond-Moretti, il est de gauche, donc il faut pas confondre Nicolas Sarkozy et l'avenir du parti Les Républicains qui s'annonce quand même bien sombre, parce que Emmanuel Macron visiblement veut achever de détruire la droite après avoir détruit la gauche avec une efficacité qu'il faut lui reconnaître.
Marie-Ève Malouine, ce positionnement très à droite avec ce recrutement de deux ministres qui viennent des Républicains, ça fait grogner les amis d'Emmanuel Macron.
Si on regarde vraiment, il n'y a pas dans le détail, il n'y a pas de recrutement de ministres qui viennent des Républicains. Il y a Mme Klinkert, mais en dehors de ça, Darmanin, il y a longtemps qu'il a quitté les Républicains. Dupond-Moretti, ce n'est pas un Républicain. Donc, c'est vrai qu'Emmanuel Macron veut contrer.
Il ne faut pas regarder juste le nombre de postes. Hein, il faut regarder quel poste est dans la hiérarchie.
Oui, mais Darmanin était déjà au gouvernement. C'est nouveau. Alors, c'est vrai que Gérald
si
Darmanin...
Si vous trouvez que Blanquer est de gauche, moi, je veux bien, mais...
Blanquer n'est pas chez les Républicains. Il a fait
toute sa carrière à droite.
Oui, mais il n'était pas chez les Républicains et chez les macronistes, c'était plutôt quelqu'un qui aurait préféré que ce soit lui à l'intérieur, je pense. Chez les macronistes d'origine issus de la gauche, je crois qu'ils auraient préféré Blanquer que Gérald Darmanin en termes d'influence de la droite dans ce gouvernement. C'est vrai que Darmanin, d'après ce qu'on dit, a fait des pieds et des mains pour être dans ce gouvernement. Après, même s'il y a la main de Nicolas Sarkozy, honnêtement... s'il fait ça, il ne le fait pas dans l'intérêt de sa famille politique, qui sont les Républicains. Eux, ça ne leur rend pas service. Donc, il faut mesurer l'éventuelle alliance qu'il pourrait y avoir. Et je ne vois pas tout à fait les Républicains rejoindre Gérald Darmanin pour l'instant et pendant quelques instants encore, longues années.
18h47 sur Europe 1. Vous restez avec nous. On continue à parler avec nos grandes voix ce soir.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Thierry Dagiral, entouré des grandes voix, Marie-Ève Malouine, éditorialiste, et Judith Vintraube du Figaro Magazine.
Mesdames, si Gilles Lejeune, qui était ce matin sur Europe 1, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée, s'en défendait, les députés La République En Marche auraient accueilli assez fraîchement, hier, Jean Castex. Il y a un problème, il va y avoir un problème avec la majorité.
Bah oui, parce que quoi qu'on dise, Marie-Ève, ce gouvernement penche nettement...
Ah bah j'ai pas contesté ça, j'ai dit simplement qu'il n'y avait pas de nouvelles recrues.
Penche nettement à droite par la promotion, notamment des gens de droite qui y étaient déjà.
C'est que le vivier La République En Marche est faiblard.
Le vivier est extrêmement faiblard. Et puis surtout, les gens de gauche contactés ont dit non. Ouais. On sait que c'est le cas de Valérie Rabault, par exemple, qui est députée, qui a dit oui, on m'a fait une proposition, ça ne m'intéressait pas. Emmanuel Macron n'a pas
même
réussi.
La présidente du groupe, alors. Il faut dire qu'elle est chercher la présidente du groupe socialiste pour venir au gouvernement. Il faut oser, il faut
mais
être très
premiers,
optimiste.
Les fidèles, Richard Ferrand par exemple, qui vient du PS, hier n'a pas assisté à la réunion de groupe.
Oui, non, il y a franchement un malaise. Il y avait déjà un malaise avant, hein, puisque La République En Marche avait perdu sa majorité absolue. Ils sont 288 au lieu des 289 requis. ça risque de ne pas s'arranger. En plus, le remaniement s'est moyennement bien passé avec François Bayrou, dont Jean Castex a confirmé qu'il serait au commissaire au plan, ce qui était l'information du canard enchaîné de ce matin. Mais enfin, François Bayrou a dû se fâcher très fort
pour maintenir Marc Fesneau.
Marc Fesneau et Jacqueline Gourault, surtout au territoire. Mmh. Or, sans le MoDem, La République En Marche n'a pas de majorité du tout.
Marie-Ève Malouine, on peut imaginer une fronde des députés macronistes ?
Disons qu'ils ont pas mal d'état d'âme, ils en avaient avant, et visiblement, dans les couloirs de l'Assemblée, avoir leur manque d'appétence pour expliquer que ce gouvernement était formidable auprès des journalistes, on sent bien qu'il y a encore des états d'âme. Et c'est aussi une façon bizarre de la gestion humaine du côté d'Emmanuel Macron. C'est ses premiers alliés, les plus anciens, franchement, ils ne sont ni valorisés ni récompensés, que ce soit le MoDem. Les socialistes, ceux qui viennent du PS, c'est vrai qu'il y avait moins de ressources humaines, mais on croit comprendre, d'après ce qu'on nous raconte, que Gérald Darmanin, il a fait vraiment le forcing pour aller à l'intérieur, et tout le bel équilibre qu'il y avait, qui laissait de la place aussi au MoDem, avec Marc Fesneau qui aurait été à l'agriculture, Julien de Normandie qui aurait pris l'éducation, tout ça s'est cassé à la figure, et au final, ça donne le sentiment d'un gouvernement déséquilibré sur sa droite. C'est pas tant par rapport, encore une fois, au parti Les Républicains que c'est aller chercher, mais c'est aux dépens des anciens alliés du président de la République qui se retrouvent un petit peu, ils se demandent à quoi ils servent, et donc ça crée de l'amertume, et c'est jamais bon.
On est à 2 ans de la présidentielle, Julie Weintraub, ça veut dire qu'il faut changer la tête de la direction de La République En Marche ?
De toute façon, La République En Marche est extrêmement abîmée. Je parle évidemment de la claque des municipales, mais pas seulement. C'est un parti qui ne fonctionne à aucun étage. À la base, ça fait longtemps que ça grogne. En demandant de la démocratie, il n'y en a pas. Au groupe, Gilles Legendre ne donne pas entière satisfaction aux députés En Marche, c'est peu de le dire. D'ailleurs, le simple fait que l'Élysée ait proposé et fait savoir qu'il proposait à Édouard Philippe une
mission pour majorité.
D'architecte d'une future majorité, ça prouve bien que l'actuel est mal en point. Mission qu'il n'a ni acceptée ni refusée, mais il a été extrêmement agacé que l'Élysée fasse savoir qu'il voulait l'enrôler.
Oui, surtout qu'il n'a jamais adhéré à La République En Marche, donc il s'est toujours tenu à distance de ces questions d'appareil.
Sauf quand il a fait l'UMP, mais ça...
Ah oui, non, mais ça c'était un autre temps, c'était quand il était...
Non, parce que ça me fait rire quand on me dit que c'est pas du tout un homme d'appareil.
Non, il a juste fondé un parti. Ces derniers temps, une fois qu'il a quitté son parti d'origine, effectivement, il ne veut plus s'intéresser à ce genre de choses. Mais il y a un problème d'organisation de la structure, parce que dans le vieux monde... Quand on a besoin de ministres, on va piocher à l'Assemblée. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait des rapports, qui président des commissions. Et on va chercher chez ces gens-là. Pour la justice, très souvent, ça a été le président de la commission des lois qui est devenu ministre. Et souvent, ça s'est pas si mal passé. Là, on se demande, ils n'ont pas pioché à l'Assemblée parce que la République En Marche n'a pas su faire émerger des talents, que ce soit au parti. Parce que normalement, il y a aussi des gens qui participent à des conventions, qui réfléchissent, qui travaillent, qui font des tours de France, qui se renseignent et qui deviennent spécialistes d'un dossier. Là, en 3 ans, personne n'a émergé. Il n'y a aucun technicien qui a émergé. Je ne parle pas des gens sur le plan médiatique, mais même sur le plan technique, personne n'a émergé. Donc, raison de plus pour aller chercher aussi chez ceux qui sont bons au sein du gouvernement. Comme par hasard, c'est des gens qui viennent des Républicains, parce qu'ils ont déjà exercé ce travail de ministre.
Et des secrétaires d'État seront nommés la semaine prochaine. On verra s'ils ont été piochés dans le vivier La République En Marche. Merci à vous, mesdames.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir été présentes ce soir sur Europe 1.